Processus,
le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.
Saison 2, épisode 26. De retour dans notre environnement naturel. Simon Snake Boisvert, bonjour.
Salut Mathias.
Pierre-Alexandre Girard. Comment vas-tu?
Ça va bien les gars, vous aussi?
Ça va très bien. Écoute, avant de te laisser continuer, juste dire qu'on a eu du... on est de retour dans notre environnement naturel, mais on a eu du plaisir la semaine passée avec les Patriotes de Saint-Laurent, dans leur vestiaire, dans le vestiaire féminin. On a tellement aimé l'expérience qu'on va la renouveler. On a déjà eu une invitation spéciale pour dans quelques mois. Puis on est ouvert aux propositions si vous voulez nous écrire. Il n'est pas impossible qu'on en fasse une ou deux autres d'ici l'été. Si vous avez des mordus et tout ça, écrivez-nous, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire.
D'ailleurs, avant de commencer notre premier sujet, vu qu'on a eu bien du plaisir la semaine passée, j'ai dit quelque chose qui a fait réagir.
Ah.
Puis j'aimerais ça que tu me donnes un petit 2-3 minutes au début pour faire une petite mise au point.
Tu laisses Tupac faire son boniment, puis après tu feras ta mise au point.
C'est sûr.
Processus est présenté par Carlsberg, la bière officielle des fans de la LHGMQ et probablement la meilleure bière au monde. On tient également à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique. Aussi, pour vous dire que Processus est une présentation de Bet99. Tous les matchs commencent sur bet99.net. Que vous soyez un fan de hockey, basket, MMA ou autre, bet99.net a quelque chose pour tout le monde.
Bon, Simon, tu voulais faire ton mea culpa sur Nick Suzuki, vas-y.
Non. Je voulais te parler que la semaine dernière, j'ai lancé à ma façon habituelle que des gars de quatrième trio, moi, c'était 1 million.
OK.
Et là, je me suis promené un petit peu sur les réseaux sociaux qui diffusent des extraits de notre podcast.
Ouais.
Et là, j'ai vu des dizaines et des dizaines de commentaires disant qu'on n'était plus en 1995 ou en 2002 et que des joueurs d'un million pour ce quatrième trio, ça n'existait plus.
Bon, vas-y.
Alors là, j'ai dit, on va aller en chercher, faire une petite...
Un serpent dans les jambes.
Oui, on va aller faire une petite recherche. Et ça n'a pas été très long que j'ai trouvé deux organisations, et non les moindres, le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas. Alors, le Lightning de Tampa Bay.
Le Lightning, attends, rafraîchis-moi les mémoires, c'est-tu l'équipe qui paye son deuxième centre de 40 points à 6 millions par année?
Exactement.
OK continue, oui.
Zemgus Girgensson, 850 000. Luke Glendening, 800 000. Mitchell Chaffee, 800 000.
Il joue combien, Girgensson, par match?
C'est pas ça, le point.
Non, mais...
C'est des 4 millions.
Parce que Jake Evans...
On parle pas de Jake Evans, on parle des
16 millions.
Non, non, Mathias,
16 millions.
Mathias, je te parle de Rome, puis tu me parles de New York. OK? Moi, je te dis que les auditeurs ont écrit que des joueurs d'un million sur le quatrième trio, ça n'existait plus.
Ah. Je pensais que tu me parlais de... Tu parlais de rhum, puis j'allais te parler de vodka. Pag aurait aimé le jeu de mots.
Oui, c'est ça. Oui. Fait que, ensuite, les Stars de Dallas,
quand
même une équipe qui n'est pas piquée des verres, et qui se retrouve avec Oscar Back à 775 000 et Colin Blackwell à 775 000 et Sam Steele à 1 200 000. Alors, si tu fais le total, c'est un trio qui coûte moins de 3 millions. Et là, ce ne sont pas des joueurs sur des contrats d'entrée. Ce sont des joueurs vétérans à qui on a offert ces salaires-là. Ils ont pris ce salaire-là et ils jouent sur le quatrième trio. Donc, mon point, c'est que des joueurs comme ça, ça existe encore. Et on va aller même plus loin. Je parlais de troisième paire de défenseurs. 1 million chacun. Tiens, tiens, Tampa Bay, qui paye leur troisième paire, Nicholas Perbix et Darren Radish, au total, environ 2 millions.
Bon.
Alors, je voulais juste faire cette mise au point-là que ça ne me dérange pas quand on critique mes prédictions, mais quand on me dit que ce que je dis n'existe pas, mais que ça existe, bien, je veux faire la mise au point.
Bon.
Et là, je l'ai fait.
OK.
Bon, on y va.
Vu que tu t'es déjà un peu crinqué.
Ouais, mais je vois des crinqués.
Ah, pas sûr. As-tu passé une belle troisième période samedi?
Ah! Là, t'essaies de m'amener où, là? Que le Canadien va faire les séries, puis que...
Bah, écoute, il y avait une belle ambiance. Les gens étaient heureux. Ouais, ouais, ça, c'est gens, bien, ça. Des gens heureux, okay. C'est le fun.
Ça, c'est toujours bien. Okay. Ça, je ne dénigre pas ça.
Bon. Là, avant de te demander d'aller plus loin sur le Canadien, parce qu'on va en parler, il y a un truc qui me hante, parce que tu sais que je me suis fait taquiner, parce que je suis un cancre en mathématiques. Mm-hmm. Et là, tu m'as sorti un gros calcul mathématique il y a quelques semaines pour me dire que le Canadien n'avait pas de chance. Puis j'ai embarqué aussi, je dois le dire, je plaide coupable. Coudonc, on est où avec ce fameux calcul mathématique-là? Le Canadien est encore à 10 points d'une place en série?
Non, justement. Et moi, je t'avais dit que ça prenait des séquences, des séries de victoires.
Ouais.
Et les séries de victoires se produisent. Okay. Et il y a aussi peut-être le fait que cette année, je pense que ça va prendre moins de points, pas que d'habitude, mais que certaines années pour faire les séries. Il y a des années, ça prend 95. Je pense pas que ça prenne 95 cette année.
Puis là, le Canadien, bon. T'as combien de points d'une place en série?
Un point.
Avec deux matchs en main.
Oui, et ils se battent contre d'autres équipes qui sont un point en arrière et tout. Mais la bonne nouvelle pour le Canadien, contrairement au moment où j'avais fait ce calcul-là, et qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de mathématiciens qui l'avaient plus ou moins compris.
Et même les non-mathématiciens.
Surtout. C'est que je disais, moi, toutes les équipes qui bataillent avec le Canadien jouent l'une contre l'autre.
Ouais.
Alors, un tel joue contre un tel, un match de trois points, ça fait en sorte que le Canadien perd du terrain en ne jouant pas ou même en ayant gagné parfois.
Ouais.
Là, d'après ce que j'ai calculé, dans les équipes qui, de façon réaliste, peuvent faire les séries, je parle pas des Sabres de Buffalo, là, il reste seulement un match comme ça.
OK.
Entre deux équipes susceptibles de nuire aux Canadiens.
OK.
Et ça, c'est la grosse, grosse différence avec il y a quelques mois. Bon, est-ce que je crois que le Canadien va faire les séries? T'sais, j'ai pas habitude. T'sais, ça a été une saison à dents de scie. Début de saison a été mauvais. Il y a eu une grosse, un gros regain de vie après le temps des Fêtes. Il y a eu une grosse baisse avant les Quatre Nations. Et après, les Quatre Nations, c'est monté. En 50 quelques années de suivre le Canadien, j'ai jamais vu une saison comme ça.
Mais à partir de la mi-décembre, c'est quand même 21, 11 et 3. Là.
C'est ça. Ouais. Mais le point, moi, j'avais dit qu'ils ne feraient pas les séries à ce moment-là. Je ne commencerai pas à virer capot.
Non.
Alors, je pense toujours qu'ils ne les feront pas.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'en date d'aujourd'hui, 17 mars, c'est probablement la fois où ils sont le plus dans le mix, officiellement.
Tu sais, puis on cherchait avec Pag avant l'émission, parce que là, on a vu que c'est quoi une foule excitée au Centre Bell.
Ouais.
Puis on a réalisé que le dernier match de série avec un Centre Bell rempli, c'est il y a 8 ans.
Oui.
Hey, 8 ans!
Parce qu'en 2020, c'était la bulle à Toronto.
Ouais.
Et en 2021, il y a eu beaucoup de restrictions de spectateurs dues au confinement.
Hey, mais c'est malade, pareil, de dire... T'avais quel âge, toi, il y a 8 ans?
29. Non. Oui,
29. 9-12 ans pas, Mathias, à Buffalo, c'est de fait depuis 2011.
Oui, mais Buffalo. Mais t'imagines quand même, puis samedi, on a quand même ressenti, même si les gens qui n'étaient pas au Centre Bell, on a ressenti un buzz, puis on s'est dit, ça fait longtemps, finalement. Longtemps. Puis là, toi, j'étais curieux quand même, puis j'avais hâte de te voir aujourd'hui. Parce que là, en date d'aujourd'hui, le Canadien repêcherait 17 et 18. Ouais. Ça va nous faire travailler plus.
Ouais.
Es-tu en dépression ou tu te dis, rendu là, aussi bien les faire?
Bien, moi, je me dis une chose, OK? Tant que le Canadien avait une chance d'avoir un choix 6 ou 7, moi, je me disais, cool.
Ouais.
Là, maintenant, je regarde ça de façon réaliste. Là. Même si ça va mal, même si le Canadien en perd 5 de fil, ça va être bien difficile pour le Canadien d'avoir un choix mieux que 9 ou 10.
Bon.
Puis là...
Ça, c'est vraiment là, si ça va mal.
Oui, là, ça va mal. Là. Il en perd 5-6 de fil. Là. Ça, s'ils font pas les séries, c'est probablement un 15e ou 16e choix. Puis s'ils font les séries, c'est peut-être un 17 ou un 18.
Ou un 31e.
OK. Correct. Fait que, tant qu'à avoir le 16e au lieu du 17e, ben vas-y, fais-les les séries. Tu comprends?
Mais peux-tu le dire? Répète ta phrase, non, mais sur un ton un peu plus enthousiaste.
Non, non, mais c'est parce que...
Non, non, mais là, c'est comme non, parce par que... dépit, là.
Non, oui,
parce que... les maudits oui. Thierry, là, non, puis c'est sacrez-nous
parce...
patients.
Non, c'est parce que pour moi, c'était une autre année pour aller chercher un toit, oui, un choix top 5-6.
Oui, mais là, regarde.
Je le sais, le bateau a quitté le port.
Et bon. T'as une bande de jeunes, t'es quatre premiers oui, compteurs. Non, non, mais...
Ça en prend d'autres, ça en prend d'autres.
Écoute-moi. Écoute-moi, là, c'est important.
Oui, oui, oui.
Non, non, écoute-moi pour vrai, là. Tu sais, t'as quand même un premier trio qui est le fun. Je te dis pas qu'il est dans le top 5, dans le top 10, mais t'as un premier trio dont la moyenne d'âge est à peu près 21 ans. Ton défenseur le plus productif, qui est quatrième compteur de la Ligue nationale, vient d'avoir 21 ans. Tu sais, c'est quand même des jeunes qui tirent la barque en ce moment sous pression.
Oui.
Fait que c'est quand même intéressant, pareil. C'est pas comme Détroit ou Philadelphie l'an dernier où c'était pas ton avenir qui luttait. Fait que c'est quand même bien, là.
Sauf que il y a pas d'attaquant de milieu d'alignement dans ce club-là. Il n'y a pas de deuxième trio.
Oui, mais regarde, ils vont essayer d'en trouver un. Puis là, l'autre affaire, c'est que t'as tes deux derniers choix top 5 sont pas arrivés encore.
Oui.
Fait que, tu sais, c'est la
situation... Mais le Canadien n'est pas tout seul
mais
là-dedans.
Mais avoue que c'est la situation idéale.
Il y a d'autres équipes qui vont ajouter des joueurs.
Avoue qu'en ce moment, c'est quand même la situation idéale pour faire les séries. Si elle fait les séries il y a 2 ans, je t'aurais dit non. Mais là, avec des bons espoirs qui s'en viennent, ils ont quand même une banque le fun. Puis c'est les jeunes. C'est pas Dvorak puis Gallagher.
Je le comprends. Je te dirais la même chose. Je te dis la même chose si les Sharks, c'est Celebrini puis Smith qui comptent les buts.
Ouais.
Je te dis la même chose si, je sais pas moi, à Anaheim, c'est Gauthier puis Carlson qui comptent les buts. Je vais te dire la même chose. Ça, t'as raison. Sauf qu'il manque encore des joueurs.
Il en manque pas tant.
Puis moi, je trouvais que c'était une autre année pour aller en rechercher un autre.
Ouais, mais Pag,
oui.
On serait arrivé l'année prochaine, là, puis il en aurait voulu un autre aussi, là. Lui, ça n'arrête pas les autres, là.
OK.
Puis, Suzuki, t'as beau l'avoir critiqué comme tu veux, on arrive dans le crunch, puis il livre. Il livre! Il transporte peut-être pas la rondelle d'un bout à l'autre comme Stoudzley, mais il joue, là. Il joue au hockey.
Ah oui.
Bon. Fait que je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, puis je pense que tu... Puis regarde, je sais que t'as un requin tatoué sur le cœur, puis c'est correct.
Non, j'ai pas un requin tatoué tout le cœur. Non, Jacob Stanley tatoué sur le cœur.
Mais...
Puis moi, faire une série, deux séries, puis poireauter, puis...
Oui, mais non, c'est pas Philadelphie, c'est pas Seattle d'il y a 2 ans, c'est pas...
Tu sais, comme je prends un exemple, les Hurricanes de la Caroline.
Ouais.
Bon, ils sont 4e au classement général.
Ouais.
Moi, si, mettons, j'étais fan de la Caroline, je les aime pas.
Ouais.
Parce que je vois pas la superpuissance.
Ouais. Mais tu sais, on...
Comprends-tu?
Puis t'étais là, t'as écouté le show avec Martin tantôt, là.
Ouais.
Disons que t'as Slav, Suzuki, Caulfield, puis tu vas chercher un Barzal, par exemple, avec des Midov sur ta 2, avec Ryan Backer qui s'en vient, Hudson, Goulet dans un rôle défensif.
Non, mais là, ça... Barzal, on commence à parler, là.
Bon.
Parce que là, Barzal, c'est l'équivalent d'aller chercher un choix top 5.
Oui, mais le Canadien a outils pour aller chercher un gars comme ça.
Ben, le Canadien a plus d'outils pour aller chercher un Barzal qu'un Cousins. Un Cousins, on s'en est rendu compte que Ottawa...
Buffalo
voulait un joueur établi.
Exactement.
Puis Ottawa a plus de joueurs établis que le Canadien en ce moment. Le Canadien a plus de jeunes à donner.
Ouais.
Alors, ça prend une équipe qui décide de se rajeunir. Est-ce que les Islanders vont échanger un gars de 27 ans? Je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut que tu brasses la cabane si tu veux faire quelque chose.
Pas que j'en ai une pour toi.
Je t'écoute.
Buffalo aurait non seulement dû demander un gars établi, mais un gars rétabli.
Ben oui, puis parce que justement... Mais quand tu dis ça...
Josh Norris, évidemment.
On n'aurait jamais pu insérer Dak avec quelque chose d'autre, considérant qu'ils ont donné Norris qui est tout le temps blessé.
Non.
Et compare pas Dak puis Norris.
Ouais, Norris, il a prouvé.
Il a prouvé qu'il produit. Il a quand même 20 buts cette année.
Mm-hmm. Écoute, on va rester fidèle quand même à notre essence. Puis je vais juste faire un petit survol de un peu de ce qui se passe chez les principaux espoirs, parce qu'on vient d'en parler aussi.
Ouais.
Demidov, je pense que là, son temps d'utilisation est quasiment une bonne nouvelle.
Mm-hmm.
Parce qu'il joue quasiment plus.
Bon,
ce qui est signe qu'il ne veut pas signer de nouveau contrat là-bas, puis qu'on est en maudit parce qu'il ne signe pas de nouveau contrat là-bas.
Moi on en a déjà parlé. J'ai aucun problème avec ça. Pour moi, Demidov, c'est un dossier clos dans le sens que il s'en vient à Montréal, c'est un candidat au Trophée Calder, puis éventuellement, pour moi, ça va être le meilleur joueur offensive du Canadien depuis très longtemps. Alors depuis, moi, là...
Tu avais dit Guy Lafleur?
Meilleur attaquant repêché depuis Lafleur.
OK.
Bon, est-ce qu'il va faire 110 points comme Mats Naslund? Écoute, c'est une autre époque.
Ouais.
Bon, Mats Naslund l'a fait juste une fois aussi.
Ouais.
Alors moi, Demidov, je vois un gars de plus de 90 points. Il y en a qui m'ont... qui ont écrit juste 90 points. Alors, c'est du stock, 90 ben, points. Puis, OK, c'est du stock.
Au moins, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a eu son année de développement. Là. C'est pas comme s'il a passé l'année sur le banc. Là.
Exact.
Il y a 49 points. Il n'y a aucun joueur de son âge qui a produit comme ça en KHL comme lui. Là.
Fait que moi, je passe assez vite sur Demidov. Là, c'est un dossier clos. Michael Hidge, il y en a qui sont inquiets de sa fin de saison parce qu'il a moins produit.
Un différentiel aussi, je ne sais pas si c'est pour toi, c'est
ben,
important
regarde,
ou pas.
Moi, je vais te dire, d'après ce que j'ai regardé... Oh, c'est une très vieille stat. Ouais. Moi, d'après ce que j'ai regardé, oui, il était meilleur en début de saison, mais j'ai toujours l'habitude de faire une moyenne, moi, dans ma tête.
Ouais.
Dans le sens que je me dis, ben, peut-être qu'à un moment donné, dans la saison, le joueur joue un petit peu au-dessus de sa tête, puis d'autres fois, il joue un petit peu en deçà de ce qu'il est. Alors, je pense que la moyenne de ce que Michael Hidge a donné cette année est extrêmement satisfaisant. On l'a déjà dit, ce n'est pas une superstar en puissance.
Ouais.
C'est un gars qui a été choisi 21e, mais c'est un gars qui peut être un centre de milieu d'alignement, que ce soit 2, 3, ça va dépendre de la force du Canadien. Et c'est un excellent choix. Ça demeure un excellent choix. Il a besoin d'une autre année à Michigan.
Ouais.
Et je pense que l'année suivante, il pourrait s'en venir peut-être même directement dans l'LNH à 20 ans.
Okay.
S'il passe par Laval, là, ça va être 10 games.
Ouais.
Il va faire 14 points, puis ils vont le rappeler.
S'il n'est pas échangé avant pour aller chercher
s'il est pas échangé
un
avant.
De premier plan.
C'est ça.
Là, Kent Hughes a été rassurant avec Ryan Backer. Il a dit aucun problème de structure au genou. C'est de l'inconfort, on est prudent, on ne prend pas de chance. Moi, de ce que j'ai vu de Ryan Backer, l'échantillon est très mince.
Ouais.
Mais j'ai été extrêmement rassuré.
Ben
j'ai trouvé meilleur, nettement meilleur même qu'à Laval l'an dernier, là, à un an de plus. Là.
Moi,
physiquement, je trouve qu'il prend plus de place.
Je suis toujours inquiet quand je vois des gars qui sont souvent blessés.
Ouais.
J'en ai souvent parlé pour qu'il y ait d'une goulée. Mais, c'est-tu juste des malchances? Excuse-moi, c'est-tu juste des malchances ou c'est le fait que il va toujours être... enclé aux blessures.
Ouais.
Moi, je trouve pas qu'il y a un style de jeu qui le rend enclé aux blessures.
Puis, il sait pas... Écoute, l'an dernier, il a pas été blessé non plus pour l'année, là. Il a quand même joué la majorité de la saison en Suisse. Puis là, c'est un genou. Ça arrive, un genou.
Ça arrive. Alors, maintenant, je suis pas trop inquiet. Bon. Là, tu veux t'en aller où, maintenant?
J'étais curieux quand même, puis tu sais... Tu sais que j'ai été très emballé par Sean Farrell quand ils sont allés chercher et que j'ai déchanté big time, comme on dit.
Ouais.
Là, je suis quand même juste intrigué.
Ouais.
Puis je me dis, bon, le kid a 23 ans, il a 24 points à ses 17 derniers matchs à Laval. Je sais que c'est de Laval, mais j'aime le fait qu'il marque ses buts, il a quitté la périphérie.
Ouais.
C'est quand même des points, là.
Ouais, tu sais, j'aimais Sean Farrell, moi aussi.
Ouais.
Puis, ça fait longtemps que je suis, depuis l'âge de 15 ans.
Tu l'as même recommandé.
Je l'avais recommandé à Val-d'Or, qui l'avait repêché. Puis jamais venu, mais quand même. Alors, j'étais bien fier de ma recommandation.
Tu as-tu dit farewell?
OK. Alors
il y a
là.
Le droit, j'en ai fait deux.
Fait que là, je te dirais, moi, farewell.
Ça arrive-tu, ça, à 23 ans, un gars de 5 et 9 qui arrive, puis que là, il trouve son élan?
T'as une échantillon de 17 matchs. Je veux dire, tu seras pas content de ce que je vais te dire, Mathias,
mais j'ai remarqué que
dans tes blogs puis tes chroniques depuis longtemps, t'es un grand expert des règles de 3. Alors, quand tu dis que t'étais pas bon en mathématiques, je te crois pas, parce que t'es bien, bien fort sur les 10 points à ces 8 derniers matchs, 20 points à ces 14 derniers matchs, t'es bien fort là-dessus. Moi, je trouve que faut évaluer le joueur dans son ensemble et non pas selon une séquence d'un mois et demi.
Bon. Ben là, c'est plus qu'un mois et demi, 17 matchs.
Ben, 17 matchs, c'est à peu près un mois et demi.
OK.
Bon. Fait que là...
Mais c'est que je me dis, est-ce que c'est le début d'une éclosion? Je dis pas que... J'ai pas dit qu'il allait jouer dans la Ligue nationale.
Ça serait bien fun, là, parce que là, ça mon choix aurait l'air encore meilleur, là. Mais malheureusement, je suis obligé de dire que Sean Farrell, selon moi, c'est un joueur de la Ligue américaine. Est-ce qu'il va avoir un rappel d'ici la fin de l'année? Ça va dépendre peut-être si le Canadien s'assure d'une place en série, mettons avec 2-3 matchs à jouer
parce que
est éliminé.
Tu dis Joshua Roy a été rappelé.
Oui.
Est-ce que c'est pire que Joshua Roy? Il peut-tu faire c'est-tu mieux quoi, que Roy?
C'est-tu quoi? C'est dur à comparer ces joueurs-là parce que c'est pas le même style de jeu.
Non.
C'est pas le même gabarit. C'est pas les mêmes qualités. C'est pas les mêmes défauts.
Mais c'est quoi la différence entre les deux, tiens, pour le fun?
Ben, Sean Farrell, il est plus impliqué.
Ah, OK.
C'est bien.
Déjà.
Mais est-ce que, nécessairement, Sean Farrell... Moi,
est-ce qu'il y a une meilleure créativité que Roy?
Je te dis encore là, il y en a un qui ralentit le jeu, il y en a un qui est un petit peu plus vite dans l'exécution.
Okay.
Mais Sean Farrell n'a pas un coup de patin incroyable. Puis Sean Farrell, c'est pas le... Non, mais c'est pas le... Sean Farrell, j'ai toujours trouvé un peu frileux. Puis je pense que ça change pas. Puis tu l'amènes dans la Ligue nationale, dans l'intensité de 82 matchs. Moi, je vois pas ça. Est-ce que c'est un gars qui peut peut-être... Tu sais, ce qu'on appelle un tweener, un joueur 4A, là, dans tous les termes. Ouais. Est-ce que ça peut être un gars qui va être rappelé, retourné? Moi, dans ma boule de cristal, je vois plus peut-être un top 5 compteur de la Ligue américaine qui, à un moment donné, va faire des grosses sommes d'argent à la Andrew Podorolski, okay, qui est premier compteur en ce moment à San Jose, mais qui a 31 ans. On le rappelle, on le voit dans la Ligue nationale, on voit qu'il n'y a pas d'affaire là. Il retourne en bas, puis il score des points.
Un charludon un peu, là.
Ouais. Ouais.
Puis donc, ouais, est-ce qu'on donne une chance au petit frère?
Florian.
Ouais.
Pas cette année.
En fin de saison, là, un peu de...
Bien, comme je te dis, ça dépend. Si le Canadien est en série ou éliminé des séries, ouais, tu peux donner un match ou deux, ça, c'est le fun. Mais pas si le Canadien bataille pour une place en série.
Non, un peu non, de robustesse, là.
Ouais, mais il est jeune, là, puis il faut... La marche est haute.
Okay.
La marche est très haute. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait devenir un joueur de quatrième trio? Peut-être. Mais comme je t'ai déjà dit, les joueurs de quatrième trio, ils sont durs à prédire. Parce que des fois, tu as des joueurs, tu ne penses pas qu'ils vont... C'est plus facile de dire qu'un gars ne sera pas un joueur de troisième trio que de dire qu'un gars va être un joueur de quatrième.
Ouais. Ben là, parlant de quatrième, ouais, là, tu n'as jamais été un fan non plus. Là, je pense que Luke Tuck, on peut faire notre deuil. Là,
ouais,
pour, ben, les gens qui
n'ont mais on pas sait fait jamais, leur deuil. Ouais. On ne sait jamais. Les quatrièmes trios. Ouais, hein?
C'est comme les gardiens, ça. Hein?
Ben, c'est 7-8 minutes par game. À un moment donné, tu as besoin. Puis si tu remarques, en général, ce n'est pas des gars qui ont des très longues carrières, mais c'est des gars qui vont te donner une bonne séquence, des fois, ouais, pendant 2-3 ans.
Okay.
Puis après ça, tu sais, c'est quasiment du...
Petit état, là, ouais, compte tenu de ses habiletés, il
ouais,
faudrait quasiment faire une statue d'avoir joué autant de matchs dans la Ligue nationale.
Oui.
C'est incroyable, pareil. Je le dis en tout respect, là.
Ben oui.
Mais
oui.
Simon, moi, j'ai une
192 matchs.
Incroyable.
Deux saisons et demie.
Incroyable.
Je ne veux pas trop revenir dans le temps, là, mais pour un joueur comme Sean Farrell, il n'y aurait pas un... Mettons, là, c'est sûr que vous allez me dire répondre à la Ligue nationale, mais il n'y aurait pas une autre ligue dans laquelle ce serait plus facile d'étudier son jeu, parce que je trouve que, tu sais, pour être allé quelquefois avec le Rocket, je trouve que c'est pas mal du jeu de dump and chase, là, du placement de rondelle.
Fait ouais,
pour un petit joueur comme ça, c'est comme difficile de se faire valoir, sauf sur l'avantage numérique. Ça serait où l'autre meilleure façon pour lui de se développer, si ce n'est que dans la Ligue nationale?
Ouais, mais regarde, même avec le dump and chase, là, ça marche.
Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas mal des buts comme de poubelle, là, devant
ben,
le
filet
après trois
rebounds. C'est ça qu'on lui reprochait.
Ouais, on lui reprochait de pas faire de... ça.
Ouais.
Mais je veux dire, il construit rien. Il est là.
C'est comme un gars qui est un bon passeur.
Ouais.
C'est un bon passeur.
OK.
Ouais.
Mais je comprends la question de Pag.
Ouais.
C'est que je pense pas que ça soit un gars. Tu sais, il y a des joueurs, tu dis, ah, lui, quand il va jouer avec des meilleurs joueurs,
ouais,
il va être meilleur dans ouais, une ligue supérieure parce qu'il va jouer avec ouais, des ouais, meilleurs. Je pense pas que Sean Farrell, ça soit le cas. Je pense pas que si tu amènes Sean Farrell puis tu le mets, je sais pas, avec Jake Evans puis quelqu'un d'autre, là, des vrais joueurs de la Ligue nationale, je pense pas nécessairement ouais, que Sean Farrell va devenir meilleur.
Mm-hmm. Parce que moi, je me disais ça, mettons, de Roy, quand il était rappelé sur l'avantage numérique, il est tellement redoutable. Je me dis, quand il va recevoir une passe dans ouais, la bonne zone, dans la zone offensive, dans la Ligue nationale, ça va cartonner. Non. Puis, ouais.
Il y avait un problème de vitesse d'exécution.
Parlant de Roy, comment tu évalues son bref rappel?
De savant?
Oui.
Bien, c'est parce que... Regarde, tu parles d'un gars qui, l'année passée, a donné 20 bons matchs aux Canadiens. Il a démontré la hargne qu'il n'avait jamais montrée auparavant.
Oui.
Et là, tout le monde l'était passé. Souviens-toi, Mathias l'avait mis sur le troisième trio du Canadien.
Incluant la direction
oui,
du Canadien.
Oui, il n'y a même pas de bataille
non,
au camp d'entraînement.
Non.
Et là, boum, tu traînes les pieds.
Écoute, le premier match intra-équipe, j'étais là à Brossard. J'ai eu un choc. J'ai dit, mon Dieu, il joue comme un gars qui est dans la Ligue depuis 15 ans.
Ouais.
J'ai dit, ça va mal se passer.
C'est ça. peut-être que, tu sais, moi, je ne le connais pas personnellement, mais on sait que derrière un casque, un masque, puis des jambières, il y a une personnalité. Les joueurs ont des personnalités. Oui. Ouais. Puis il y a des joueurs qui ont toujours, toujours besoin d'être motivés par la peur de ne pas atteindre leur objectif. Et il y en a d'autres, alors qu'il y en a d'autres que dès que tu leur donnes un semblant de confiance en eux,
ouais.
Ah, OK, c'est gagné. Est-ce que Roy fait partie de cette catégorie-là?
J'ai tellement peur, là.
Tu sais, comme je t'ai dit, c'est un gars, j'ai rien entendu dire sur lui, je le connais pas ouais. personnellement, mais moi, je regarde sur la glace ce qui ouais. se passe. Faut que je regarde ce qui se passe là, puis moi, il me donne l'impression d'un gars qui a tout le temps besoin d'être ultra motivé.
Puis tu sais, une carrière, là, la différence entre prendre ta retraite en Suisse
ouais.
avec, après avoir gagné 2 millions.
Ouais.
Puis d'avoir une carrière, puis d'avoir 50 millions en banque,
ouais.
c'est un fil.
Ah oh oui.
Un fil.
Souvent, oui.
Boum! Puis ouais. du jour au lendemain, c'est terminé.
Ouais.
Question d'un avocat du Mexique. Y a-tu une corrélation à faire avec comme vraiment le camp d'entraînement épouvantable que le Canadien a eu, puis celui de Josh Roy? Dans le sens que on dirait que tout le monde est arrivé en se coulant douce au début de la saison.
Non. Mais non.
Ben.
Heinemann, ça ne l'est pas coulé douce.
Ben, c'est le seul qui.
Hudson non plus.
Hudson non plus, non.
Ben, c'est comme. Vous
non, il a pris les choses pour acquis. Il a pris les ouais. choses pour acquis.
Mais Kirby Dach aussi, ça veut dire?
Ah!
Ben, regarde aussi ce que ça donne en première moitié de saison, puis regarde, ouais. tu sais.
Ouais. Ben, bref, tu quand même, les résultats n'étaient pas là en pré-saison. Là.
Ben, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements de trio, ouais, mais c'était évident que Roy.
Mais ça, je t'ai déjà dit les pré-saisons.
Dès le premier coup d'œil, tu voyais qu'il prenait les choses pour acquis, là.
OK.
OK. Bon, ben écoute, on a eu quand même...
Peux-tu passer à travers une coupe d'autres espoirs rapidement? Ou
Ben, t'en as-tu d'autres dignes là, de dire...
Ben,
là?
Ceux dont on parle souvent, là, Oliver Kapanen, que moi, je vois carrément pour un joueur de Laval rappelé occasionnellement,
on en reparle. Ouais, lui, on peut en reparler, ouais. Je vois s'en aller à Laval.
Là, Logan Mailloux, d'après moi, c'est une monnaie d'échange. Philippe Méchard, ça fait longtemps qu'on ouais. a fait une croix sur lui. Owen Beck, est-ce qu'il va jouer régulièrement l'an prochain? Je pense que ça va dépendre des acquisitions de cet été.
C'est de plus en plus un quatrième trio.
Oui, ouais. et ça va dépendre des acquisitions aussi. Ouais. Adam Engstrom, assurément, a besoin d'une autre saison ouais. si jamais ouais. il y a une chance. Jacob Fowler, le gardien de but, ça va bien.
Ouais.
Il va probablement signer son contrat à la fin de l'année.
Puis la défaite en fin de semaine, ça t'inquiète-tu? Ou c'était
la quoi?
La défaite de Jacob Fowler,
non,
c'est pas...
Non, contre Northeastern, non. Ça, non. c'est un match. Ouais. Puis, dans les autres, ben écoute, là, c'est sûr qu'on parle
ton,
de long
ton préféré,
shot.
Là, Atos Koivu.
Atos Koivu, qui a un but en 31 matchs en passant cette année. moi, je le sais, c'est... Je sais, j'ai pas l'habitude de parler...
Amène-moi pas à Logan non. Sawyer, parce oui, que là, je vais être obligé de te parler de oui. Trevor Connelly. Là.
Non, non, mais... Ben là, je sais pas de quoi tu parles, mais en tout cas...
Non, c'est ça.
Logan Sawyer, tu sais... Je te parlais de Ostapchuk la semaine passée. Là, ouais. Tu riais de moi. Là.
Comment ça, je riais de toi?
Oui, ouais, tu riais de moi parce que j'ai parlé de Ostapchuk comme un joueur de centre de quatrième trio dans l'échiquier des Sharks de San Jose. Puis là, tu as dit, ah, les joueurs de quatrième trio.
Ah,
là,
oui. Ah ben oui, bon. Oui, oui. Un million.
Bon. Oui, mais tu vois, Logan Sawyer, dans mon 1 million quatrième ouais. trio, je peux pas m'empêcher de croire qu'il y a une chance.
Bon.
Bon.
Mais c'est correct.
C'est ça.
C'est correct.
C'est ça. Bon. Dis pas aux gens de le prendre. Dis pas aux gens de prendre dans leur pool, là.
Peut-être jouer plus de matchs dans la Ligue nationale que Trevor Connelly.
Je sais pas où tu t'en vas avec ça. OK.
Faut pas toucher à ton fils.
On va t'envoyer les 20 matchs, là, puis tu les regarderas.
S'il te plaît.
Oui.
Parfait. Bon, ben écoute, on va arrêter là parce qu'on a un premier bloc très joufflu. Fait que on se revoit-tu au deuxième bloc? T'es-tu encore là?
Pas sûr. Okay.
Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snaik Boisvert.
Ça roule, c'est quand vous voulez.
Écoute, Pac vient de nous dire que ça roulait, fait que c'est notre tour.
Ah oui?
Tu es arrivé avec une proposition intéressante. Tu voulais nous parler de la valeur, je crois, des choix entre le troisième et le septième tour?
Oui, puis je voulais parler un peu de qu'est-ce qu'une équipe peut faire avec ça. Ouais. Parce que si on remarque à la date limite des transactions... Beaucoup de clubs échangent des joueurs contre des choix de 3, des choix de 4, des choix de 5. Puis là, on se dit toujours, ben, ça donne quoi?
Canadien, juste pour rafraîchir la mémoire.
Canadien,
de
cette année, a 3 choix de 3e, 2 choix de 4e et un choix dans les 3 dernières rondes.
Puis ça comprend-tu le choix pour Jake Allen? Parce que tu sais que le choix de 2 va être transféré à 3, là.
Oui, ça, c'est le choix de Jake choix Allen. 3. Oui.
Puis 2 choix de 4.
Oui. Puis 2 choix de 5. Oui, puis 1 choix de 5, 1 choix de 6, 1 choix de 6.
Il y en a un paquet, là.
Oui, ils en ont 8 dans les 5 dernières. Bon. Là, je suis retourné à 2019. Pourquoi je suis retourné à 2019? Pour deux raisons. La première, c'est que ça fait quand même 5-6 ans, donc on commence à avoir une idée où ça s'en va. Et deuxièmement, je me souviens très bien de ce repêchage-là. Excusez-moi. Le samedi après-midi, lorsque le repêchage se déroulait, j'avais mes petits dards dans les mains. Oh.
Mais non.
Puis là, je me posais la question...
Avais-tu des dards pour vrai?
Non, mais dans ma tête, j'en avais. Puis là, je me disais, sur quel dard je lancerais... Quel dard je lancerais? Quel joueur je prendrais si j'étais à la place des équipes?
Ça va nous prendre des dards pour notre spécial repêchage. Il va falloir s'acheter ça.
Fait que pour commencer, moi, je vais commencer par parler brièvement, puis ça ne sera pas long.
Ah, tu peux...
La nomenclature des joueurs de 3 à 7 qui, en ce moment, sont établis dans la Ligue nationale.
En 2019?
Oui, sud 2019. Je parle pas de gars qui ont joué 12 matchs.
Mais ça, c'est une cuvée quand même, je pense... où il y avait une certaine profondeur.
En 2019?
Oui. Parce que le premier tour, finalement...
Oui. Premier rang, oui, avec les Connor McMichael.
Non, mais le premier tour, finalement, n'était pas si extra...
Non.
Il y a beaucoup de gars qui ont chuté.
Oui.
Les Egris et compagnie.
Podsolkin, Paul Godzin, Soderstrom.
Écoute, je pense que Caulfield serait peut-être choisi 3 ou 4, là, si t'as refaire. Prendre encore Boldy avant, Jack Hughes, pas Boldy, puis...
Top 5.
Sider, là, mais ce serait top 5.
Top 5. Bon. Mais là, regarde, à partir de la troisième ronde, je te donne un exemple.
Ouais.
Zach Jones, défenseur des Rangers, correct, établi. Pavel Dorofeyev, qui vraiment est un bon joueur à Vegas.
Ouais.
Et d'après moi, lui, la seule raison pour laquelle il a descendu, c'est pas par manque de talent, c'est parce que c'est un joueur russe. Puis quand c'est pas les top-top, les Malkin, les Ovechkin... Les équipes sont un peu plus frileuses parce qu'elles disent « Est-ce que le gars va venir? » Alexis Protas, fin de la troisième ronde. Capitals de Washington.
Okay.
Début de carrière modeste.
Ouais.
59 points en 65 matchs cette année. Ça, c'est un gars, Alexis Protas. Pourquoi il a été choisi si loin? Parce qu'on regarde sa fiche et on dit 6 pieds 6, 240 livres. Comment un gars de 6 pieds 6 a pu être ignoré? Alors que il y avait quand même... un bon potentiel dans les séries à son année de repêchage. Il y avait 22 points en 23 matchs. Mais la raison est simple. C'est qu'à son année de repêchage, Alexis Protas mesurait 6 pieds 3 et il était gros comme un fil.
Okay.
Il pesait moins de 180.
Ah oui?
Ouais. C'était pas, par exemple, un Porter Martone qui est déjà un colosse. C'est un gars que tu te demandais vraiment et c'était pas un grand patineur.
Il a mangé beaucoup de soupe au poids.
Il a dû. Parce que là, c'est toute une pièce d'homme et il joue très bien.
McCarron, mettons, est-ce que tu te souviens, en gros, il était gros?
Lui, il était à 6-6-6.
Mais il était pas gros.
Il était pas gros, mais il était 200 quelques.
Là, t'as-tu fini avec le troisième tour?
Oui.
Là, tu viens de m'en nommer 3 sur 32.
Oui.
Fait que t'as un taux de réussite de 10% quand même, là.
Quatrième ronde, défenseur Jordan Spence à Los Angeles, établi. Ouais. Mathias Macelli en Arizona.
Oui, ça, c'est mieux.
Joueur de milieu d'alignement. Henry Thrun, défenseur des Sharks, mais troisième paire. Dimitri Voronkov, qui va assez bien à Columbus, joueur de milieu d'alignement aussi. C'est tout. Alors là, je t'en ai nommé 4. Il n'y a pas de vedette là-dedans.
Non.
Mais il y a des joueurs établis.
Ouais.
Cinquième ronde, il y en a un. Un. Et c'est pas le plus talentueux. Mark Kastelic.
OK.
OK, mais il est là. Il est là. Le gars a 59 matchs de jouer cette année à Boston.
Tu peux aller chercher pour un choix de 7
exactement.
À maturité.
C'est ça.
Ouais.
Sixième round, ensuite, il n'y en a pas. Tu as quelques joueurs qui ont joué quelques matchs. Là. Tu as Adam Edstrom à New York Rangers, là, mais on parle vraiment d'un joueur de soutien. Et en septième round, tu vois, tu as Raphaël Hervé-Pinard qui a joué, mais on ne peut pas vraiment le compter. Il n'est pas établi dans la LNH. Juuso Parsinen qui a joué à Nashville, Colorado, bof. Et au 214e rang, Dustin Wolf. Alors, c'est pas mal lui, je pense, qui est le meilleur joueur, avec Protas. Lui et Protas sont probablement les deux joueurs qui ressortent.
Morale de l'histoire?
Morale de l'histoire, il n'y a pas vraiment de morale. C'est plutôt l'idée d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les choix de 3-7 quand on les a.
Bien, on les échange. Bon. Bien, peut-être pas 3.
Non, mais on fait quoi avec? La première option, c'est d'essayer de les utiliser pour s'avancer dans les deux premières rondes.
Ouais.
Tu sais, mettons, tu as un choix. Parce que moi, je remarque une chose. Après le milieu de la deuxième, c'est vraiment là qu'il y a une grosse baisse.
Va sur HockeyDB en attendant, s'il te plaît, mon gars.
Tu sais, exemple, le Canadien a choisi Jaden Struble cette année-là au 46e rang.
Ouais.
Après ça, là, il y a Nick Robertson, il y a Brett Leeson, puis il y a les gars que j'ai nommés.
Tu me diras quand t'es prêt.
Je suis là. Alors,
regardons les choix du Canadien au troisième tour. Là. Descends à l'aile, là.
Mm.
De, disons, de 2020 à, en bas, là. Okay. Nomme-moi ça. Troisième tour. Il y a, je sais qu'il y a Jacob Fowler, qu'on va voir. Mais lui, c'est 2023, 24.
Oui.
T'es-tu là?
Non.
Ça okay.
va. Bon, veux-tu que j'aille, Mathias?
Ben, un des deux.
Ah ouais, on va y aller. Qui on va y aller.
Tu sais, je veux voir, là, parce qu'on a eu des. Tu sais, il y a eu des Norlinda qui ont fait parler.
Bon. Ouais, vas-y. À partir de 2020.
Ouais.
Il n'y a pas eu de choix en troisième ronde en 2020. Okay. Dimitri Kostenko en 2021.
Troisième. Juste des troisièmes tours, moi, que je veux.
2022, Adam Engstrom, Vincent Rorer.
OK.
2023, Jacob Fowler. 2024, Atos Koivu, Logan Sawyer.
Descends.
On retourne.
En bas de 2020, là.
OK, 2019, Mathias Norlinder, Yanni Fairbrother.
OK.
2018, Cam Hillis, Jordan Harris. 2017, Cale Fleury, qu'on a vu brièvement, dans la LNH, Scott Walford.
OK.
2016, Will Bitton. 2015, Luca Vedemo. 2014, Brett Lernout.
Continue.
Avec d'autres, Connor Crisp en 2013. Tim Boson en 2012. 2011, il n'y en a pas eu. 2010, il n'y en a pas eu. 2009, Mac Bennett, Jonas Natinen.
Continue.
2008, Steve Quayler. 2017, Olivier Fortier, Yannick Weber.
Continue.
Ryan White en 2006. 2005, il n'y en a pas eu. 2004, Alexis Emeline.
OK.
Bon, on en a-tu assez, là?
Ça vaut pas grand-chose.
Bien, c'est sûr que... Regarde.
T'es mieux de les échanger pour des joueurs établis non, mais regarde, ou avancés.
C'est là que j'en vais à mes trois options.
Ouais.
La première option, c'est d'essayer de les échanger pour s'avancer. Si les clubs font le même exercice qu'on va te faire, pourquoi ils donneraient un choix de début deuxième ronde en retour de trois choix de deuxième, mettons, de troisième?
Ouais. Ben pourquoi il y a des clubs qui le font?
Oui, ça c'est déjà vu. Pourquoi il y a des clubs qui le font? Parce qu'il y a une deuxième stratégie. Plus t'en as, plus tu lances dehors, puis tu dis, ben peut-être je vais avoir un Alexis Potas un jour.
Oui, mais c'est quasiment 10... Écoute, c'est en bas de 10 %, là.
Oui, mais si t'en as 3,
tes
chances augmentent un peu.
Oui.
Bon.
Tu sais, c'est comme Pittsburgh, là. Carl Dubus qui se pète les oreilles, les bretelles, parce qu'il a reçu 3 choix de 3, puis 4 choix de 4, là. Tu sais, c'est pas ça qui m'impressionne, là.
La troisième stratégie...
Ouais.
C'est de les prendre à la date limite des transactions puis aller chercher tout ce que tu as besoin pour les séries.
Voilà. C'est quoi ta stratégie,
mais c'est quand même important. Mais c'est quand même intéressant d'en avoir parce que ça te donne des munitions quelconques. Pas des munitions pour aller te chercher Sidney Crosby, mais des munitions qui souvent vont faire la différence entre faire un tour de série puis trois tours de série.
Ouais.
Mais à ce moment-là, comme je t'ai dit, il faut que la stratégie soit cohérente et dans le sens que tu dois demeurer constant. Faut pas qu'une année, tu les échanges toutes, puis l'année d'après, tu les gardes toutes. À un moment donné, il faut que tu dises, là, les choix de troisième ronde, de quatrième, mettons, troisième, quatrième, cinquième, ça sert à quoi? Regarde, dans les gars qui ont réussi en 2019, si tu remarques, là-dedans, on va regarder un petit peu, il y a Dorofeyev, qui est un Russe, donc, qui représentait un point d'interrogation. Des gars comme Jordan Spence, c'est un petit défenseur. Voronkov, petit défenseur offensif.
Ouais.
Voronkov, un Russe encore. Tu sais, ça dépend comment tu vois ça. Est-ce que tu dis... Puis Dustin Wolf, gardien de 6 pieds, et les gardiens de 6 pieds, à venir jusqu'à lui, n'avaient pas la cote.
Moi, à partir de la 3, c'est les gardiens. Montembeau, je pense, c'est 3.
Ouais. Je pense.
Tu regardes le Canadien, là. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, première ronde.
Ben oui.
Newhook, première ronde.
Ouais.
Dak, première ronde.
Ouais.
Lainey, première ronde.
Ouais.
Joshua Roy, qui est là temporairement. Dvorak, deuxième ronde. Gallagher, c'est une exception. Anderson, quatrième tour. Défense, Madison, premier tour. Hudson, deuxième tour. Moi, tu sais, Goulet, premier tour.
Tu vas peut-être trouver ça curieux, là, mais j'avais écrit ça sur ton blog il y a 1000 ans.
Ouais.
Les choix 3, 4, 5, 6, là, personnellement, je les échangerais.
OK.
Mais je me garderais un choix de 7. Pourquoi? Parce qu'en septième ronde, à un moment donné, il me semble qu'il y aurait toujours un joueur que je me dirais, lui, tout d'un coup. Puis même si je frappe...
Tu peux l'inviter au camp?
Non, tu l'as. Okay. Parce que si tu l'invites au camp, quelqu'un d'autre peut aller le chercher et il va signer un contrat.
Tu les échanges, pourquoi ces choix-là?
Bon, voici.
Parce que tu as dit tantôt qu'il faut
si
que
je suis
constant.
Dans une période où je commence à bâtir mon équipe vers la Coupe.
Le Canadien, en ce moment?
Ah, à partir de l'an prochain, date limite des transactions.
Ouais, mais là, il y en a trois cette année.
Non, je te parle l'an prochain, là.
Okay.
Là, cet été, sais-tu quoi, je fais encore le plein d'actifs.
Okay.
Si tu peux monter puis aller chercher un choix de deux, OK, mais qui va donner le 38e choix au total pour le 74e, 94e, puis tu sais, en tout cas, si tu trouves un soccer, tant mieux, là. Mais je te dirais, moi, que pour moi, cette année, ça serait ça.
Maintenant, on repêche, puis après, on les échange, à date limite des échanges.
Non, dans les années subséquentes.
C'est ça, oui, c'est ça que je dis.
Bon, là, s'il y en a qui sont curieux, ben c'était quoi tes dors, Snake, cette année-là?
Ouais.
Bon, alors dans les joueurs que j'ai nommés puis que je n'ai pas nommés, je vais faire un petit tour d'horizon rapide. Zach Jones, je ne laissais pas.
OK.
Alors, je me dis OK, c'est bien. Bon d'or de lancer. Pavel Dorofeyev, je ne laissais pas.
OK.
Un bon d'or, je ne pensais pas qu'il ferait autant de buts, là, mais c'est un bon d'or de lancer. Leighton Ahak, choisi par Vegas, un d'or qui n'a pas marché. Alexis Protas, je ne le voyais pas là du tout, alors je l'avoue. Jordan Spence, oui, j'aimais Jordan Spence, je suis bien content qu'il ait réussi.
C'est quoi son plafond?
Ce qu'il est en ce moment.
Troisième paire?
Troisième paire. Et avec un petit peu d'attaque. Tu vois, Henry Thrun, je ne le voyais pas là du tout. Moi, je voyais un défenseur défensif qui finirait dans la Ligue américaine. Macelli, je ne le voyais pas là non plus. Voronkov, je n'y ai pas vraiment pensé. Je voyais peut-être un gars comme Mikhail Abramov, choisi par Toronto en quatrième ronde. Peut-être, et il n'a pas réussi. Et là, on continue en cinquième. Mark Kastelic, pour moi, c'était un autre draft. Et j'aimais bien, en cinquième ronde, un d'or, Sacha Moutoula, repêché par Colorado, pas réussi. En sixième ronde, j'aimais Greg Merrilles, choisi par Floride, pas réussi. J'aimais Luca Bersan, beaucoup, choisi par Colorado, pas réussi. Et en septième ronde, moi, j'aimais Massimo Rizzo, choisi 216e, pas réussi. Dustin Wolf.
Il l'aimait beaucoup aussi, Massimo Rizzo. Hein?
Dustin Wolf, un gardien de but 6 pieds, qu'est-ce que tu veux, ça n'avait plus la cote. J'ai embarqué dans le jeu. J'ai embarqué dans la parade, si
la
on
morale
veut.
De l'histoire, là, c'est qu'à partir du troisième tour, c'est des dards, mais c'est des dards avec un bandeau sur les yeux.
Oui. Puis même la deuxième moitié de la deuxième ronde, là.
Y a-t-il une raison, selon toi, là, je regardais... finalement, bien en retard les choix du Canadien là, depuis quand tu m'as demandé de le faire, Mathias. On dirait que tous les choix après la troisième ronde ont eu plus de succès que ceux de la troisième ronde.
Ouais.
C'est-tu parce qu'on prend des plus grands risques ou comment tu expliquerais ça?
Ben, peut-être que les gars choisis en troisième ronde sont des gars que l'équipe avait sur leur liste en deuxième et qui se sont royalement trompés. Puis que plus tard, à un moment donné... Souvent, tu vas demander à un recruteur, « Ah, as-tu un homme, toi? As-tu un gars que tu veux? As-tu un gars? » Puis souvent, ce recruteur-là, il est vraiment une fixation sur un joueur. Et ce joueur-là, il s'adonne à avoir visé dans le mille.
Ouais. C'est-tu symptomatique du Canadien? Ou c'est
tout le monde, c'est partout.
Oh, ouais.
C'est partout. Et oublie pas, je le dis toujours, bon an, mal an, il y a 50 joueurs repêchés qui vont avoir une carrière. 50. Alors, c'est normal, c'est l'équivalent de une ronde des deux tiers.
Va au repêchage pour le fun. Mm-hmm. 2010.
Ouais.
Oui. Va voir ta troisième. À partir de la troisième ronde.
Ouais.
Puis dis-moi combien de joueurs ont joué plus de 500 matchs.
Oh, palais.
Bon, je l'ai moi devant moi. Oui. Radko Gudas en troisième ronde.
Nomme-moi les pas, mais nomme-moi combien de joueurs.
Bon, j'en ai deux ici. j'en ai trois. J'en ai quatre. Cinq. Six. Sept.
Sur quasiment...
8, excuse-moi.
30.
J'en ai 8.
3, 4, 5, 6, 7.
Oui, sur 150 joueurs. J'en ai 8 sur 150 joueurs.
Tu vois? C'est ça. C'est toutes les équipes.
C'est 1 sur 18 à peu près.
Ouais. Ouais.
Et c'est pour ça que bon an, mal an, il y a 50 joueurs qui ont une carrière. Habituellement, parmi les 50 premiers, il va en avoir à peu près 35-40.
Ouais.
Et le reste, pour se rendre à 50, ouais, c'est les rondes 300.
Ben, puis c'est pour ça que souvent, les gars, les gens vont dire « Oui, oui, mais Zetterberg a été repêché au 6e. Ah oui, mais Braden... » Oui, mais c'est rare. C'est l'exception qui confirme la règle.
Voilà. Voilà, parce que tu regardes 2010, et puis... T'sais, si tu regardes, mettons, tu cliques sur HockeyDB, tu vois un match joué. Puis là, tu te rends compte que...
Tous les gars de premier tour, quasiment, là.
Tous des gars de premier, deuxième. Puis là-dedans, il y a un cinquième, un troisième, un deux sixième. Écoute, c'est ça.
Ouais.
Mais tu sais, dans le fond, je pense qu'on a dit des choses aujourd'hui que pas mal tout le monde sait, mais le point, c'était plutôt de voir qu'est-ce que ça donne d'en avoir puis qu'est-ce qu'on fait avec. Puis je pense que ça dépend où ton club est rendu. Mais d'après moi, quand un club est en train de liquider, il ne doit pas se priver d'aller les chercher non plus, parce qu'éventuellement, ça peut devenir des munitions. Parce qu'oublie pas qu'à la date limite des transactions, c'est pas tous les joueurs qui méritent qu'on donne un choix de 1 et de 2 en retour.
Non.
Puis il y a des équipes qui sont bien contentes de dire, comme les Sharks, les Blackhawks, « Oh, on va prendre un choix de 3. Luke Cunningham. »
Ils n'ont rien à perdre.
Luke Cunningham, il a coûté un choix de 4.
Oui.
Bon, mais Luke Cunningham, quatrième trio, tu as des punitions pour finir l'année.
Ouais. Mais là, tu t'en servirais... T'en servirais-tu quand même cet été pour avancer?
J'essaierais. Tu t'essayes toujours. Mais je pense que c'est un petit peu irréaliste, comme je t'ai dit, de croire que des choix de 3 et des choix de 4 vont te donner le 38e choix au total.
Tu sais que le 37e choix au total en ce moment, là, Canadien, là, pour avoir accueilli Jeff Petrie un mois.
Oui.
Bravo, Carl.
Mais ça.
Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça peut-tu donner... le repêchage s'en vient à grands pas, là, juste à quelques mois.
Mais là, comme je te dis, on va avoir plus de jobs, là. Tu vas avoir plus de jobs.
Parce que là,
on est rendu à 17 et
18. Oui, les possibilités. Oui, c'est là que... Oui, c'est ça.
Tu vas travailler pour...
Oui, parce qu'au début, les questions portaient sur Matthew Schaefer, les questions des auditeurs, là. Là, ça commence à être un petit peu plus pointu, là. On commence à parler de joueurs qui, comme par hasard, se retrouvent 17e sur les listes de Corey Pronman puis Scott Wheeler.
Puis là, tu vas travailler... probablement à moitié pour rien, parce qu'il y a au moins un des deux choix qui va être échangé.
Non, mais ça, c'est pas grave.
On va faire travailler par
là. Non, mais moi, j'aime ça parler de repêchage, tu sais. Puis, pour ceux qui se le demandent, les saisons régulières des équipes juniors se terminent en fin de semaine. Il y a des clubs qui vont être éliminés bientôt. Donc là, les rapports, les parenthèses vont se fermer sur les joueurs. Et là, on va faire comme l'année passée. On va parler de quelques joueurs à chaque semaine qui va nous amener au top 32 culminant du mois de juin.
Mais tu sais, je regardais, à 17-18, tu as plus de Louis Leblanc et de Nathan Beaulieu que de Kyle Connor. Beaucoup plus.
Oui, mais tu vas avoir un Connolly qui va glisser.
Bon, on n'embarque pas sur, justement, là, tu t'embarques sur un terrain glissant. Ouf. On va mettre fin au deuxième bloc.
C'est bon, Mathias.
Trust the process. On est rendu au troisième bloc, puis là, c'est ton équipe de la semaine.
Oui.
Et là, ça va être le fun.
Oui.
Là, ça va être le fun. Puis moi, j'ai plus de fun à parler d'eux autres depuis une semaine.
À cause des échanges qu'ils ont fait.
Ouais. Vas-y.
Sénateurs d'Ottawa.
Ouais.
Qui ont fini très loin au classement l'an dernier, mais ça ne se reproduira pas cette année, à moins d'un effondrement.
Non.
Devraient faire les séries.
Ils vont faire les séries.
Et puis ça, c'est bien. C'en est une autre équipe qui n'a pas fait des séries depuis 2017.
Ouais.
Alors qu'ils avaient amené les Penguins de Pittsburgh en prolongation au 7e match de la demi-finale.
À qui le dis-tu?
Oui.
Parce que moi, j'avais le fameux pari avec Jean-Charles Lajoie
qui
se promenait en slip coquille.
Oui.
On était dans un bar, il y avait à peu près 150 personnes en prolongation. Je peux te dire que le Jean-Charles, là, il a dû perdre 10 livres ce soir-là. Ça dégoulinait. Il était content quand Pittsburgh a compté. Ça aurait été extraordinaire.
Bon. Les Sens... nouvelle direction, mais en même temps, beaucoup de joueurs acquis par l'ancienne direction.
Oui.
Ouais. Ce qui est dommage dans le cas des Sens, puis on en a parlé récemment, il y a des équipes à un moment donné qui se pensent arriver. Et là, qui commencent à échanger des hauts choix de repêchage, des espoirs, etc., pour aller chercher les pièces manquantes, alors que dans le fond, ils ont encore besoin de repêcher haut une couple d'années.
Me permets-tu une parenthèse quand même?
Oui.
Puis je dirais la même chose, même si Pierre Dorion n'était pas à notre antenne. il y avait un contexte quand même particulier à Ottawa. Là.
Ah, M. Melnyk qui était malade.
Il était malade. Oui. L'équipe était en vente. Oui. Il y avait une pression sur Pierre Dorion. Fait que lui, dans le fond, là, le contexte aussi le forçait presque à accélérer les choses.
C'est sûr. Mais peu importe que ça vienne de Melnyk, de Dorion, d'un autre actionnaire.
Je pense qu'avec un propriétaire stable...
Moi, je parle des cents. Ouais.
Mais je veux juste te dire qu'avec un propriétaire stable, probablement que ça aurait été différent.
Possible. Alors là, ce qui se passe, c'est que les cents ont quand même gardé le noyau de l'époque. Je trouve cela, Kachuk, Patterson, Shane Pinto, Ridley Gregg, Jake Sanderson, Thomas Chabot, tous des joueurs qui avaient été repêchés il y a plusieurs années.
Ouais.
Et là, c'est un mix qui fonctionnait plus ou moins parce qu'on avait toujours à peu près la même tendance à Ottawa. On démarrait très mal au mois d'octobre-novembre.
Ouais.
Puis après ça, ben, on le sait, c'est difficile de rattraper un mauvais départ. Et puis, en fin de saison, ça allait bien. Puis là, on se disait, attendez l'année prochaine.
Ouais.
Et il se passait la même chose.
Ouais.
Et il se passait la même chose. Et là, les joueurs sont quand même rendus à maturité. Ils sont jeunes, mais à maturité. Les Stutzler qui a 23 ans, Kachuk qui en a 25, Cousins en a 24, Sanderson en a 22, Chabot 28. Donc, là, c'est quand même une équipe qui est bien équipée pour être dans les séries pendant nombre d'années, surtout que ces joueurs-là sont signés à long terme.
Et il y a une grande différence cette année. Quelque chose qu'on n'a pas eu pendant des années.
C'est-à-dire?
Un gardien de premier plan.
Bien, c'est ça. Linus Ullmark. Et puis, il y a même, en l'absence, pendant qu'il y a eu des blessures, Merrill Heinen, c'est un très petit échantillon, mais il a quand même gardé les buts sur la tête. Un choix de troisième ronde.
Ah, mais c'est ça que j'ai dit, un gardien. Les gardiens en troisième ronde, let's go.
Et Ullmark est signé jusqu'en 2029. Alors, pas de problème de ce côté-là.
Ça fait une différence, Ullmark.
Ça fait une grosse différence. Ouais. Sanderson jusqu'en 2032, Chabot 2028, Kachuk 2028, Cousins 2030 et Tim Stutzla 2031. Oui, il y a des gros salaires là-dedans, mais je pense qu'ils en ont quand même pour leur argent, je dirais. Surtout avec le plafond qui va monter.
Est-ce qu'ils ont assez de joueurs de premier plan pour aspirer à la Coupe?
Vois-tu, les deux choix dépensés pour Chychrun et Dobrynkat peut-être leur auraient permis d'aller les chercher. Là, il va falloir qu'il aille les chercher autrement. Moi, je trouve qu'on s'est amélioré avec Cousins par rapport à Norris.
Ah.
Norris était blessé.
Mais
oui, il était bon il y a quelques années. Il y a eu une grosse saison, ce qui lui a donné un contrat monstre, mais il y a eu une bonne saison en santé. Cousins, oui, il gagne 5 millions jusqu'en 2030. Il va falloir qu'il prouve, mais à date, petit échantillon, ça va très bien. Il cadre très bien dans l'équipe, je trouve.
Les gens ont oublié, là, puis des fois, ils vont comparer à Dak, là, que le gars, il a fait une saison de 31 buts et 68 points à 21-22 ans. Là.
Ouais.
C'est pas rien.
Non, mais depuis ce temps-là, rien.
Buffalo.
Tu vois, Drake Batterson, bon joueur d'âge moyen, si on peut dire, 26 ans. 4 900 000 jusqu'en 2027. Un joueur que j'aime bien pour un troisième trio, un des meilleurs centres de troisième trio de la Ligue nationale, Shane Pinto.
Ouais.
À salaire de 3,7 millions. Alors, tu sais, il y a quand même une échelle salariale intéressante. Dans leurs défenseurs, c'est sûr que le général, c'est Jake Sanderson. Thomas Chabot, qui vaut quand même encore... Je te dirais qu'il n'est peut-être pas aussi bon offensivement qu'en début de carrière. Mais il est encore bon. Artem Zub, bon joueur défensif. Nick Jensen, qu'on a pour une couple d'années, on l'a obtenu en échange de Chychrun, bon vétéran. Et il y a un jeune, Tyler Cleven, bon joueur de troisième paire. Donc, on voit qu'il y a quand même un bel équilibre chez les défenseurs. Et dans les buts, on l'a dit, Linus Ullmark. Qu'est-ce qui manque aux Sens? Bien, tu sais, on signe des gars comme David Perron. On va chercher un Fabien Zetterlund pour renforcer le milieu de l'alignement. Adam Godette, un moment qui a eu une poussée, mais ça, c'était vraiment un coup de luck. Parce que c'est pas un si bon joueur que ça. Claude Giroux, dernière année de contrat, est-ce qu'on peut le ramener à bas prix à 37 ans? Peut-être. C'est un gars de la région. L'équipe est bonne. Mais il peut pas, on peut pas le payer 6 500 000.
Fait qu'il y en a-tu assez pour aspirer à la Coupe?
Bien, c'est ça que. C'est pour ça que j'ai réfléchi tout haut. Regarde, les joueurs en ce moment, là, je pense qu'ils arrivent à une maturité pas mal cette année. Je pense pas qu'un gars comme Stutzla, Kachuk, peuvent devenir nécessairement beaucoup meilleurs que ce qu'ils sont en ce moment. C'est ça l'affaire.
Ouais.
Alors, ça va en prendre d'autres.
Mais ben, Stutzla comme... 23 quand même, là.
Oui, je le sais, mais il a quand même commencé à 18.
Ouais.
Alors, tu sais, Stutzla, il est pas mal ce qu'il est. Très bon, mais il est ce qu'il est. Là, qu'est-ce que les Sens peuvent aller chercher? Bien, je pense que les Sens, malheureusement, ils n'ont plus de munitions au point de vue espoir tellement.
Mais Cousins a fait du bien, là.
Cousins a fait du bien. Est-ce qu'il pourrait causer une surprise en série? Tu sais, oublie pas que dans l'Est, là, c'est pas la fin. Tu sais, si Ottawa prend... Floride, je pense que c'est Floride en ce moment qu'ils affronteraient. Okay. Parce que le meilleur wildcard affronte le deuxième meilleur champion de division. Floride, est-ce qu'il pourrait sortir les Panthers? Moi, je pense que oui. Peut-être.
Okay.
Peut-être. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. La seule chose, c'est qui est-ce qu'ils peuvent échanger? T'sais, dans les espoirs, là, les Tyler Boucher, oublie ça.
Ah,
c'est vraiment, vraiment mince.
Yakimchuk.
Une chose qui leur a fait mal sur le troisième trio, parce que c'est un gars qui était bien parti, Alex Formanton.
Ouais.
Mais ça, on sait
qu'il
joue en Europe, puis probablement, il ne reviendra jamais.
Il ne reviendra jamais.
Non.
Le scandale d'équipe Canada, là.
Ouais. Et Carter Yakimchuk est probablement leur meilleur espoir. Ouais. Mais étant donné qu'ils sont bien armés à la défense, les Sens, je verrais bien un Yakimchuk intégré à l'équipe peut-être après une saison dans la Ligue américaine, tranquillement, troisième paire offensif. Ouais. Est-ce qu'on a fait une erreur en choisissant septième? Je pense qu'il est trop tôt pour juger. Mais c'est sûr que...
Quand tu regardes ce que Byam fait, ce que Dickinson fait...
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Fatiguant.
Alors, tu vois, moi, j'aimais bien Yakimchuk, mais j'avais Dickinson avant lui.
Qui vient de battre
mais Parrick, là, il va falloir qu'il prouve que dans sa zone, il est capable d'arrêter d'autres choses qu'un ballon de plage. Là.
Mais puisqu'on parle des Sénateurs, puis là où ça va rejoindre ta philosophie, tu parles souvent d'échanger des joueurs avant que ce soit trop tard.
Oui.
Quand tu... Puis on en a parlé souvent.
Oui.
L'échange de Derek Carlson par Pierre Dorion a été le pivot de tout. Le pivot.
Même on remonte ça à Matt
Duchesne. Parce que ça a donné, ça a donné Josh Norris et le troisième choix au total.
Ça a donné Stoudzley.
Ouais.
Écoute, tu échanges Carlson, qui est encore dans force de l'âge, et tu te retrouves finalement en bout de ligne avec Stoudzley et
Josh
Dylan
Norris.
Cousins.
Ouais.
Non, mais c'est ça. Ouais. Ben tes deux premiers centres pour encore 7-8 ans, facile. Fait que tu sais, des fois, là, c'est des échanges qui sont durs à faire.
Je crois que c'est un échange qui a parti une tendance dans la LNH. Laquelle? De faire protéger le choix de première ronde ultérieur que tu donnes.
Mais ça.
Parce que Doug Wilson, quand il a donné son choix...
Ah, il pensait jamais.
Jamais il aurait cru que les Sharks seraient le troisième choix cette année-là. Puis je pense pas que Dorion non plus croyait avoir le troisième choix.
Fait que ça a été un coup vraiment... Ça a été le plus grand coup de sa carrière.
Simon, t'étais comment? Tu devais être en furie quand ils ont fait ça?
Les Sharks?
Mais dans ce temps-là, ils ne trippaient pas sur les Sharks, c'était pas en reconstruction.
Ah, je pensais que tu étais depuis toujours un fan des Sharks.
Bien, j'ai toujours regardé les Sharks de travers parce que j'ai toujours aimé la façon dont les équipes de Wilson étaient construites, sans compter le chandail, qui est absolument magnifique. D'ailleurs, ton collègue Alexandre Pratt dans la presse en fin de semaine, hein?
Oui.
Ces trois meilleurs chandails, les Sharks en blanc, les Sharks en turquoise et les Sharks en noir et turquoise.
J'adore les... Puis moi, il y a plusieurs années qu'on avait le pool. Je prenais tous les gars des Sharks ou les gars de l'Ouest.
Ouais.
Quand mes enfants étaient jeunes, quand ils étaient couchés, je regardais les matchs de hockey. Tu sais, ça me permettait de...
Une chose est sûre,
stratégique.
Ça a changé le destin de Macklin Celebrini. Parce que si tout ça se retrouve à San Jose il y a quelques années, ils n'auraient pas liquidé les actifs comme ils ont fait en ce moment pour finir dernier. Et puis Celebrini serait ailleurs. Ben bon, c'est du révisionnisme. Mais tout ça pour dire que je pense que les Sens, ils manquent vraiment, vraiment, mais vraiment pas grand-chose. Ouais. Mais ce sont des genres d'acquisitions, je pense, qu'ils pourraient faire ultérieurement, à la date limite des transactions, en échangeant volontiers des choix de première et des choix de deuxième. Là, c'est le temps pour les Sens d'y aller pour la Coupe pendant que dans les 4-5 prochaines années, tous ces gars-là sont à leur apogée. Est-ce que j'aime les Sens? Oui. Je vais les voir l'autre jour. J'adore les voir jouer. Puis l'échange de Cousins m'a vraiment... pas craqué, mais je veux dire... C'est juste ça que ça prenait.
Ouais.
Fait que c'est ça pour les Sens. Alors, fans des Sens qui nous écoutent, je suis très optimiste, mais il y a encore, tu sais, il y a juste une coupe pour 32 équipes, tu le dis tout le temps, puis c'est un sale cliché fatigant, mais c'est ça.
Cousins, est-ce qu'il avait croisé Hallmark à Buffalo?
Sûrement,
oui. Oui. Alors, tu veux savoir s'il y a de la chimie entre les deux à...
Non, ben
entre le gardien de but qui fait une passe au joueur de centre, puis qui...
Non, mais c'était juste pour savoir si ça aurait pu faciliter. Le DG aurait pu consulter le gardien.
Ouais, mais ils connaissent.
C'est la réputation des joueurs à travers la ligue. C'est un petit monde, là, OK.
Ouais.
C'est un petit monde.
Mais peut-être que des fois, hey, c'est un bon gars.
Ben oui,
c'est un bon gars. Ça
donne quand même
des joueurs sympas.
Ah oui, c'est sûr.
Je sais que dans le junior, moi, j'ai vu souvent un directeur gérant parler à un gars qui avait joué midget avec un autre. Puis comment il est, lui, il est allé à l'école avec quelqu'un. Ah ouais, ben lui, il est le fun. Ben non, lui, il est chiant. Puis ça, c'est sûr.
Ouais. Bon point. Good.
Trust the process.
Bon, on est rendu à nos trois questions.
Mm-hmm.
La première, de Pierre Théroux. Pourquoi autant de centres prometteurs au niveau junior sont incapables d'occuper le même rôle une fois dans la Ligue nationale? Car des défauts flagrants sautent alors aux yeux. Manque de vision, faible au cercle des mises au jeu, peu créatif, etc. On réalise alors que ce sont plus des ailiers en devenir que des centres efficaces. Newk, Dak, Zegras et autres étaient-ils si efficaces au centre au niveau inférieur et cachaient-ils alors bien leurs lacunes?
Ben, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, mais moi, je vais donner une partie de réponse, puis tu ajouteras quelque chose à ça.
Ben, moi, c'est juste par rapport à Newk que je trouve qu'il est quand même en train de trouver sa niche comme troisième centre.
Oui, mais je comprends la question. Ouais. Il prend Newk comme exemple, ouais. C'est correct. C'est que ces gars-là, tu sais, c'est toujours le principe de l'entonnoir. Alors, c'est sûr que jouer au centre dans la Ligue nationale, c'est pas facile, mais jouer au centre dans le junior, ben c'est un petit peu plus facile.
Ils sont tellement bons par rapport au reste du groupe que tu les vois pas, les défauts, tout le temps, là.
Non. Alors, est-ce qu'ils les cachent? Ben c'est fou que tu fouilles. Alors, tu dis, mettons, OK, est-ce qu'il est créatif? Ben dans le junior, ça peut se voir quelqu'un qui est plus ou moins créatif, mais il y en a justement qui peuvent être créatifs dans le junior, un peu créatifs, puis dans la Ligue nationale, ça tombe complètement mort.
Ils ont moins de temps.
T'as moins de temps. Fait que là, il faut que tu regardes ça, puis tu te dises, OK. Moi, je me pose toujours la question. Est-ce que ces manœuvres-là vont marcher à un étage plus haut? Là, ça devient une question de jugement, ça devient une question d'expérience, ça devient une... Ah ben lui, il ressemble à tel joueur il y a 10 ans qui faisait ça, puis ça n'a pas marché. Kirby Doc, là, je digresse un peu, mais je trouve que c'est un gars qui n'a jamais fait preuve d'un super talent offensif dans le junior. Alors, on l'a, ça a été beaucoup plus de la projection.
Tu l'as dit souvent,
oui, je l'ai dit souvent.
Ouais.
Trevor Zegras, c'était ses passes savantes, ses maniements de rondelles. Oui, mais, tu sais, alors là, c'est dur de dire, est-ce que c'est quelque chose qu'il peut refaire dans la LNH? Encore là, est-ce qu'il va avoir le temps de faire ces manœuvres-là?
Ben, permets-moi quelque chose, là, de ramener une citation de Nathan MacKinnon récemment.
Oui.
On lui a demandé de parler de Connor Bedard, puis de sa production qui avait diminué. Puis il dit, j'aurais payé à ma deuxième année pour être bon comme ça.
Ouais.
Puis il dit, après 4 ans, là, je savais pas c'était quoi être un pro.
Ouais.
Je me suis pris en main. J'ai changé complètement ma façon de faire. Il y a aussi ça, des fois, des gars qui sont bons juniors, qui se laissent traîner, porter par leur talent, puis qui font pas les ajustements comme MacKinnon l'a fait. Il y a ça aussi.
Mais ça, tu le sais de l'intérieur.
Oui. Mais des fois, tu sais pas. Regarde, MacKinnon, il aurait pu rater son coup aussi, là.
Oui.
Y a-t-il déjà divulgué ça a été quoi son déclic? Qu'est-ce qui a permis de réfléchir, de faire l'introspection?
Ben là, c'est que ça marche. Après 4 ans, là, c'était ordinaire.
Mais il a dû s'en rendre compte après 3 ans, dire là, ça marche pas pantoute. Comment je peux m'en sortir?
Oui, puis là, il est devenu centre numéro 1 quand Duchesne a été changé. Ouais.
Des fois, là, puis il y en a beaucoup qui le comprendront jamais. Fait que, est-ce que Dak aurait quand même été moins pire s'il avait travaillé plus fort?
Mais Nathan MacKinnon puis Dak, c'était pas le même talent, c'est ça.
Tu sais que je veux pas les comparer.
Non, mais je veux dire, c'était plus facile pour un MacKinnon de monter d'un autre niveau qu'un gars comme Dak qui avait quand même des habiletés.
Ce que je viens de dire, c'est est-ce que ça aurait été moins pire pour Dak
s'il
avait travaillé plus fort?
Probablement.
Bon. Olivier Gélina, j'aimerais vous entendre sur Jérémy Loranger dans la BCHL. Et admissible au prochain repêchage, semble être assez dominant offensivement.
En effet, Jérémy Loranger est dominant offensivement, repêché par la Ligue junior majeure du Québec, mais il a décidé d'aller dans la BCHL, probablement et certainement, avec l'ambition de s'en aller à l'université. D'ailleurs, il a une bourse d'études de l'Université Nebraska-Omaha. Est-ce qu'il va s'en venir dans la Ligue junior majeure du Québec l'année prochaine? Peut-être. Mais pour le moment, dans la BCHL, il est admissible au repêchage cette année. Bon, pourquoi Jérémy Loranger est perçu comme un choix de 6-7e ronde? ça demeure un joueur de 5 pieds 9, 160 livres. Ça ne veut pas, et qui n'a pas le talent pour faire des comparaisons d'un Tyson Jones à l'époque ou d'un Carl Torres ou d'un Bradley Nadeau. Alors oui, c'est peut-être plus, je peux comparer là, le rendement, c'était plus un genre d'Alex Newhook à l'époque qui jouait dans la BCHL. Ouais. Mais l'affaire avec Newhook, c'est que Newhook avait un meilleur physique que Laurent G.
Ouais.
Laurent G, à 5,960, demeure une longue shot, mais c'est quand même un joueur qui ne joue pas en périphérie, très important. C'est un joueur qui est utilisé pour tuer des punitions, mais il y a aussi le fait que la BCHL devient de plus en plus faible
ouais.
à cause de l'avènement dans le junior de joueurs de cette ligue-là. Fait que ça, malheureusement, ça dévalue la valeur d'un gars comme Laurent G, qui a également un excellent lancé. Écoute, c'est juste une question de force physique.
Okay.
Fait que peut-être qu'une équipe, 5-6e ronde, tu sais, à un moment donné, là, on parlait de leader tout à l'heure. 5-6e ronde, pourquoi pas?
Ouais. Ouais. Frank, puis là, la question, je viens de la lire, là. Écoute, elle est en plusieurs segments. Je ne sais pas pourquoi tu l'as choisi.
Ah, c'est parce qu'à Trame...
Moi, c'est la première phrase qui me fatigue.
Oui, bien, c'est parce qu'elle te rend mal à l'aise dans ton grand amour du CH.
Au contraire.
C'est pour ça que
je l'ai pris. Toi, comme tu penses que me connaître, mais tu ne me connais pas.
Mm-hmm.
J'aimerais savoir quelle est la grande différence entre Thomas Harley et Kaden Goulet.
Oui.
Deux défenseurs choisis environ même rang il y a une année d'intervalle. Déjà là... Il y a une énorme différence entre les deux. Fait que c'est pour ça que ça m'étonne mm-hmm. qu'on pose la question. J'ai l'impression que Harley est bien meilleur que Goulet, surtout offensivement. Il est très meilleur que Goulet. Était-il possible de le prévoir lors de leur année de repêchage?
Oui, c'est ça la question.
Non, Harley, moi, je suis un fan de Harley. Bon. Là. Fait que tu as présumé des trucs.
Non, mais j'ai présumé que
non, Harley...
si on ne dit pas que Kaden Goulet est un futur membre du Temple de la Renommée, ça te fait de la peine. Moi? Ça te fait de la peine. Goulet, il est important. Bon,
là c'est quoi, non? Deux minutes pour cabotinage à l'impro. Hein, c'est Yvan Ponton.
Ouais.
Non, il ne fait pas du geste.
Non, mais on va...
Harley est un stud.
La différence, je vais te dire, c'est que Goulet est un meilleur joueur défensif et Harley est un meilleur joueur offensif. C'était ça la différence entre les deux, même s'ils ont été repêchés...
Harley est quand même bon défensivement aussi,
oui,
pareil.
Oui, mais Goulet dans le junior était meilleur. Là, on parle à ce moment-là parce qu'on demande, était-il possible de prévoir? Est-ce qu'il était possible que Harley... On pouvait le prévoir. Oui, Harley avait de bien meilleures habiletés avec la rondelle. Les deux sont des bons patineurs, mais Harley était meilleur avec la rondelle. Et pour moi, Harley est devenu exactement ce que je croyais qu'il deviendrait dans la NH. Pas nécessairement un joueur de 70-80 points, mais un joueur quand même qui peut contribuer énormément en attaque. Alors que pour moi, Goulet avait un rôle strictement défensif.
18e rang, Harley, si ma mémoire est bonne.
Oui.
Goulet 16, mais une année d'intervalle. Non, Harley...
Alors, il y a quand même des comparables, là.
Mais Goulet, ils vont être contents quand même. Tu sais, si tu le mets pas dans... Si tu dis pas c'est mon défenseur numéro un, tu vas être en santé, tu
vas être content d'avoir
Goulet.
S'il demeure en santé.
Tu vas être content d'avoir Goulet.
S'il demeure en santé. Ben non, ça te prend des Goulets dans l'équipe.
Ben oui.
Parfait. Mais la réponse courte, c'est oui, c'était prévisible que Harley était meilleur que Goulet offensivement.
Hey, on a déjà fini.
Mm-hmm.
Fait que je sais qu'il y en a un ou deux qui n'étaient pas contents de notre 58 minutes d'il y a deux semaines.
Ouais, deux semaines.
Bon, ben, on vous a redonné vos minutes. Simon Snake-Boisvert.
J'ai perdu deux, moi,
à punition. Oui, cabotinage. Simon Snake-Boisvert, merci beaucoup. Pierre-Alexandre Girard.
Merci, les gars, puis on se retrouve sur Patreon.
Exactement.